Eh bien voilà, c'est le moment de retrouver l'émission mensuelle Café Bien-être avec Anne-Marie Giaguédu et Michel Piquet, toutes deux psychologues et membres de Jalmalve, jusqu'à la mort accompagner la vie. Bonjour à toutes les deux, bonjour Anne-Marie, bonjour Michel. Alors de quoi s'agit-il aujourd'hui? De quoi allez-vous nous parler?
Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est sur le thème des enfants et la mort. Et on l'a intitulé « Dis maman, c'est quoi la mort ?» Voilà, par rapport aux enfants donc, qui se posent des questions. Donc Anne-Marie va nous parler un petit peu de pourquoi on a choisi ce sujet aujourd'hui.
Oui, alors parler de la mort est un sujet tabou. Et l'aborder avec les enfants l'est d'autant plus. Donc nous allons partager avec vous le fruit de nos expériences pour, nous l'espérons, vous donner des pistes de réflexion et d'accompagnement. Avant de parler de la mort aux enfants, on peut se questionner sur son propre rapport à la mort. Parlez-vous de la mort en famille, avec vos enfants? Que pensez-vous de la mort? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Êtes-vous ouvert aux questions des enfants? Pouvez-vous montrer vos émotions, les partager? La mort nous demande un travail intérieur de temps, de souffrance. Nous allons commencer par une approche philosophique de la mort, puis nous aborderons les approches conseillées avec les enfants. Et puis pour terminer, nous répondrons aux questions que les enfants peuvent vous poser en lien avec la mort. Alors Michel, comment appréhender la mort au sens philosophique?
On peut dire que la mort reste un mystère pour l'être humain. Vivre, c'est d'abord naître pour mourir un jour. Ça pose question. Montaigne disait que la mort fait partie intégrante de la vie. Toute chose qui existe est appelée à disparaître. Il en est de même pour tout ce qui est vivant, mais aussi tout ce qui est créé. Tout ce qui se forme en nous, à un moment, se dissout. La mort est un passage d'un état à un autre. Et le philosophe grec Platon et son maître Socrate ont développé une vision de la mort centrée sur l'idée que l'être humain est constitué non seulement d'un corps, mais aussi d'une âme immortelle. Pour eux, la mort n'est pas tant une disparition qu'une séparation entre ces deux éléments. Alors, cette compréhension de la mort peut changer notre point de vue. Descartes disait « je pense, donc je suis ». Il y a donc deux aspects dans la mort. On parle souvent et plus de la mort physique, ce corps qui va vieillir, puis mourir et disparaître. Mais qu'en est-il de la conscience ? De l'identité de chaque être, de chaque « je suis ». C'est ce qu'on appelle la deuxième mort. Un jour, dans un congrès de soins palliatifs à Montréal, où on faisait une intervention, un journaliste m'a posé cette question. « Qu'est-ce que ça vous apporte de vous occuper des mourants ? Est-ce que ça change votre vision de la mort ?» Alors oui, ça m'apprend à être plus vivante, à grandir, à mûrir, et à faire plus attention au temps présent, à ce que je vis tous les jours. Cela me permet d'être plus authentique avec moi-même, avec les autres. Je n'attends pas pour dire à mes proches combien ils sont importants. Si je meurs demain, je n'aurai pas de regrets sur ce point. Savoir que l'on va mourir apporte de la sagesse dans notre vie, dans nos choix. Cela permet de trier ce qui est important, ce qui ne l'est pas, de lâcher prise avec ce que l'on ne peut changer, et de changer ce que l'on peut. On va lâcher avec notre toute-puissance. Cela m'apprivoise aussi avec l'idée de la mort. J'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie et j'ai vu que le passage en lui-même n'est pas douloureux. Alors avec Jalmalve, avec cette association, on essaye de se familiariser avec ces notions car la majorité des personnes ne veulent pas penser à la mort. Cette vérité, je vais mourir, je n'y pense pas, je l'évite, je l'oublie. Avec cette tendance à croire que je suis immortel dans ce corps physique. D'ailleurs, dans un questionnaire que j'avais déposé auprès de mes étudiants, je leur avais demandé comment ils aimeraient mourir. Et certains ont dit « je veux être immortel dans ce corps physique sur cette terre ». Et un autre avait dit « oui, mais si tout le monde restait immortel sur cette terre, il y aurait beaucoup trop de monde. Et finalement, on finirait par avoir l'âge de nos enfants ». Voilà, petite anecdote pour sourire. Alors Anne-Marie, qu'est-ce qu'ils pensent en fait nos enfants de la mort?
Alors, Pour les enfants, la mort vraie, la mort réelle, la mort concrète est une réalité lointaine. C'est d'abord l'absence, mais ils n'ont pas intégré son irréversibilité et son universalité. Elle les intéresse, mais ils ne pensent pas qu'ils puissent, eux, mourir. Mais ils sont bouleversés lorsqu'elle touche un enfant du même âge. Alors, on va le voir par différentes tranches d'âge. De 0 à 3 ans, l'enfant ne comprend pas la mort comme une fin définitive, mais comme une absence physique ou une séparation prolongée. Il réagit surtout à la rupture de ses routines et à vos émotions, tristesse, stress, qu'il ne peut comprendre si vous ne lui exprimez pas le pourquoi. L'enfant a besoin de réconfort physique, des câlins, du maintien des routines et d'explications simples de vos émotions. Je suis triste parce que papy est mort. De 3 ans à 6 ans, c'est l'âge de la pensée magique. L'enfant peut croire que ses pensées ont causé la mort ou qu'il peut faire revenir la personne. La mort est souvent vue comme temporaire et réversible, comme un sommeil ou un voyage. Utilisez des mots simples et concrets. Corrigez doucement l'idée de réversibilité. Quand on est mort, c'est pour toujours. Dédramatisez toute culpabilité potentielle. Ce n'est pas de ta faute. Et aussi, très important, utilisez le mot « mort ». De 6 à 8 ans, l'enfant commence à comprendre l'irréversibilité de la mort. Cependant, il ne saisit pas encore pleinement son caractère universel. Il peut penser que seules les personnes âgées meurent. Sa curiosité se porte sur les aspects physiques. Qu'est-ce qui se passe avec le corps? Confirmez l'irréversibilité et commencez à expliquer l'universalité. Tout le monde meurt un jour, mais généralement quand on est très vieux. Répondez factuellement aux questions sur le corps. Nous allons y revenir dans quelques instants. Validez ses sentiments, même s'ils sont peu exprimés. De 8 à 12 ans, à cet âge, l'enfant a une compréhension plus mature. La mort est finale, universelle et inévitable. Sa pensée devient plus abstraite, l'amenant à réfléchir au sens de la vie et de la mort et à l'éventualité d'une vie après la mort. Il peut chercher à comprendre les causes spécifiques d'un décès. Engagez des discussions plus abstraites avec l'enfant s'il les initie. Fournissez des informations factuelles sur les causes du décès si demandé, tout en continuant à valider ses émotions. Et à partir de 12 ans, donc au début de l'adolescence, l'adolescent a une compréhension de la mort similaire à celle d'un adulte. Cependant, le deuil à cet âge est souvent complexe, car il peut se superposer au deuil de l'enfance et au changement identitaire de l'adolescence, créant un double deuil. Respectez son besoin d'intimité tout en maintenant le dialogue ouvert. Reconnaissez la complexité de ses sentiments sans le juger. Restez vigilant aux comportements à risque et proposez un soutien adapté avec certains professionnels. Alors dis-nous Michel, les enfants, ont-ils peur de la mort ?
D'une façon générale, on peut dire que les enfants n'ont pas peur de la mort. Un enfant, par exemple, qui serait malade, a surtout peur d'être abandonné. Ce qu'il redoute le plus, c'est de perdre l'amour, en fait, de l'adulte, dont l'extrême serait l'abandon. Alors, c'est différent, par contre, si un enfant est en deuil, s'il est en deuil, il se sent toujours abandonné. Les enfants endeuillés ne seront jamais plus comme avant. La perte d'un parent est un drame pour l'enfant qui le subit. C'est aussi une énorme injustice et donc quelquefois il se sent terriblement responsable. L'enfant endeuillé peut entrer dans la peur à ce moment-là car pour lui le pire est arrivé. Il est inquiet, rien n'est plus sûr, il a perdu confiance et le parent décédé. Bon, peut aussi devenir un parent imaginaire qui peut l'accompagner tout au long de sa croissance. Donc il est important vraiment pour la construction affective de l'enfant de le rassurer qu'il n'est en aucun cas responsable de la mort de ce proche et de lui permettre d'exprimer ses ressentis. Parce qu'il peut y avoir de la peur, mais aussi de la colère, de la tristesse. Et si les proches ne peuvent l'accompagner, c'est vraiment important. Il y a des professionnels, il y a des associations qui peuvent accompagner l'enfant pour qu'il puisse exprimer en fait ses émotions, ses ressentis. Ça lui permettra de, comment dire, traverser cette épreuve. Voilà. Alors Anne-Marie, est-ce que tu peux nous parler des attitudes à favoriser auprès de l'enfant ?
Oui. Alors tout d'abord, être à l'écoute de ses émotions et lui permettre de les exprimer. Lui dire qu'il a le droit de pleurer ou de ressentir de la colère. Surtout, éviter les « moi à ta place ». Quel que soit l'âge de la personne en deuil, laissez tout simplement un espace de parole et d'écoute. C'est souvent ce qui est le plus difficile. Utilisez clairement les mots « mort », « enterré », « incinéré ». Les adultes pensent que ces mots sont trop forts pour l'enfant. Or, ce sont souvent les adultes qui ont des difficultés avec ces notions-là. Pour aider quelqu'un à exprimer ses ressentis, on peut aussi utiliser le portrait chinois. Si papa qui est mort était une fleur, un vêtement, un dessert, un fruit, un moyen de transport, un plat, un animal, une odeur, un pays, cet exercice permet de voir la personne décédée sous un autre angle, souvent une source de sourire, d'amusement, de souvenirs heureux qui remontent à la surface. Alors Michel, quand une personne malade entre dans la phase d'agonie, comment agir avec son enfant ?
Alors ça, c'est un petit peu compliqué parce que chaque enfant a son tempérament, ses forces et ses fragilités. Suivant l'âge également, il va falloir s'adapter. Donc il va falloir vraiment plutôt écouter l'enfant, lui demander ce qu'il en pense, ce qu'il ressent, comment il le vit et surtout de quoi il a besoin. Voilà. C'est ça qu'on oublie souvent, c'est qu'on va donner des conseils, on va lui dire des choses. C'est pas très adapté. Il faut d'abord essayer de voir où en est l'enfant lui-même, ce qu'il peut supporter, ce qu'il ne peut pas supporter. Donc, de façon générale, on ne va pas donner trop de détails. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Hein. Et plutôt attendre que l'enfant pose des questions. Il va réagir quelquefois aux réactions des proches, finalement. Il va un peu réagir à la peur de ses proches, au stress ou à la tristesse des autres, plutôt que de parler de lui-même. Donc ça va être justement important, parce que dans ces moments difficiles où la famille vit ce qu'on appelle un pré-deuil, c'est-à-dire que la personne est dans l'agonie, mais elle n'est pas encore disparue, elle n'est pas encore décédée, et on commence à faire son deuil, on commence à... Voilà, se dire la personne, elle va partir, elle va disparaître. Et dans ce pré-deuil, en fait, il faut vraiment qu'il y ait un suivi de l'entourage, un suivi de personnes qui peuvent accompagner, qui peuvent s'accompagner. Parce que c'est difficile, chacun dans sa souffrance, chacun est dans son propre deuil. Donc ça va être difficile à la fois, de garder un petit peu sa tranquillité pour traverser ça et de pouvoir accompagner les enfants. Donc quelquefois, ça va être des personnes qui sont un peu moins proches, un peu plus éloignées ou qui sont peut-être moins impactées par ce deuil. hein, pour pouvoir accompagner l'enfant, l'écouter, lui expliquer ce qui se passe et surtout répondre à ses questions. Donc, il faut s'adapter et permettre à l'enfant, s'il le désire, de voir la personne une dernière fois, de lui dire au revoir, de pouvoir, dire quelques mots avec elle, et puis ensuite de suivre et de vivre les rituels mortuaires en famille pour faciliter le deuil. Parce qu'on sait que si on ne voit pas les choses, si on ne peut pas dire au revoir, ça peut être un peu plus difficile. Hein, parce que l'imaginaire travaille plus loin, plus fort que la réalité, souvent. Donc c'est important, effectivement, de ne rien imposer aux enfants, mais de ne pas non plus les écarter de ces événements, donc qui vont lui permettre de toucher le réel et donc de ne pas imaginer des choses plus terribles. Alors, si vous ne vous sentez pas d'accompagner votre enfant lors des obsèques et de vous dire « bon, il va y avoir trop d'émotions », à ce moment-là, s'il est vraiment petit et que vous ne vous sentez pas de l'accompagner, expliquez-lui. Voilà, je fais le choix de ne pas t'emmener voir papy parce que je pense que ce n'est pas le meilleur endroit pour toi. Peut-être que je me trompe. Vous voyez, il faut aussi être humble. C'est-à-dire que là, on n'a pas de certitude. On ne sait pas comment on va réagir, comment l'autre va réagir. Mais si tu souhaites, tu peux faire un dessin. Tu peux me donner un objet qu'on va mettre, par exemple, dans la tombe, voyez, avec papy. Et comme ça, tu seras quand même présent. Mais il faut rester quand même à l'écoute. Hein. Si l'enfant veut vraiment venir, à ce moment-là, il faut peut-être lui permettre de venir. Hein. Et puis, il y a aussi maintenant plein de petits livres pour enfants qui racontent la mort, qui racontent les obsèques. On peut les lire avec lui, soit avant, pour le préparer, voir un peu ses réactions, soit s'il n'a pas pu venir, à ce moment-là, après. Et alors, du coup, c'est vrai que répondre à leurs questions, hein, souvent, les parents demandent, mais quoi répondre, comment répondre ? Anne-Marie, tu peux nous donner quelques pistes ?
Alors, avant de répondre à toute question, dire ceci à l'enfant. Ta question est très importante et je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Avant cela, je voudrais savoir ce que toi, tu penses de cette question. Pourquoi ? Cela laisse du temps pour répondre à la question, mais aussi de jauger où en est l'enfant dans sa réflexion. Car il a peut-être déjà sa propre vision de la mort de par son entourage, ses copains, ses enseignants, les instituteurs. Et les enfants trouvent eux-mêmes ce qui leur fait du bien à ce moment-là. Et donc, à vous de réajuster. Et Michel, comment parler de la mort à un enfant ?
Alors, on ne peut pas en parler comme avec une copine, on boit un thé et puis on discute autour d'un thé. On va en parler plutôt suite à un film, suite à une question qui viendrait de l'enfant, ou une émission télé qu'on va regarder ensemble, ou qu'ils ont vu, voilà, et que du coup ils arrivent avec leurs questions. Alors quand même, il faut rappeler que le pire, c'est de ne pas en parler. Hein. Ce qui est important, c'est effectivement d'expliquer la situation avec des mots simples. Papy est décédé, ça veut dire qu'on ne le verra plus. On ne pourra pas continuer à lui faire des bisous, ni le prendre dans nos bras, mais on pourra continuer à parler de lui, on pourra continuer à regarder des photos. Voilà, c'est parce que l'évocation des disparus est très importante. Hein, dans certaines familles, on ne veut pas parler des décédés, on enlève les photos, il ne faut plus parler de telle ou telle chose. Ça, ce n'est pas très bon. La personne, elle a existé. On a cette mémoire et ce lien affectif qui perdure de toute façon. Donc, on peut lui expliquer que pour le moment, il est dans une chambre un peu préparée pour lui, que toutes les personnes qui veulent lui dire au revoir puissent le faire et qu'il est tranquille, il ne souffre pas. Parce que quand on est mort, on ne souffre plus. Voilà, on ne respire plus, on ne mange plus, on ne parle plus. Et puis, petit à petit, le corps se transforme. Et là, on peut évoquer, il y a eu l'été, il y a eu l'automne, et puis il y a l'hiver. Hein, il y a les feuilles qui jaunissent et puis qui tombent des arbres. Voilà, le corps physique, c'est un peu la même chose. Et puis, on va le placer dans ce qu'on appelle un cercueil. C'est une grande boîte en bois. Et il va être enterré dans un cimetière. Il y aura une plaque, il y aura son nom. C'est un endroit où il y a une place pour chaque personne. Et puis, il va y avoir son nom, sa date de naissance, sa date de décès. Et on pourra venir. lui mettre des fleurs, déposer des dessins, des photos, lui parler. On peut parler aussi de l'incinération, hein, qui la crémation, est, comment dire, ça se fait de plus en plus. Alors c'est un peu difficile parce que c'est pas encore dans nos, c'est pas dans notre culture, ça vient, mais c'est pas comme en Inde, voilà. Donc incinérer, faire brûler le corps, ça peut être un peu violent pour l'enfant. Donc il faut attendre en fonction de l'âge et des questions, savoir si justement ça lui fait pas trop peur. Je me rappelle d'un enfant comme ça qu'on avait accompagné qui disait « Oui, mais alors papy, on va le brûler. » Alors, on va pas brûler papy, hein, c'est son corps, il ressent pas de la douleur. Et quand on l'enterre, finalement, c'est un peu la même chose, tu vois, il respire plus, etc. Et le feu, ça lui faisait vraiment très, très peur. Et du coup, ben, voilà, il a fallu passer par un temps d'explication, de dire « Tu vois, bon, maintenant, alors ils avaient pris une urne, et puis ils avaient décidé d'enterrer l'urne, de la mettre dans le caveau. » Bon, on lui a dit, tu vois, c'est un petit peu la même chose, il y a quand même quelque chose qui reste. Parce que ce qui fait peur souvent aussi dans la mort, c'est quand il y a une disparition, quand il n'y a plus rien. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de cendres, il n'y a pas d'endroit. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin justement d'aller sur cet endroit. C'est... Voilà, il reste encore quelque chose qui est le témoignage, finalement, de ce que cette personne a vécu. Et quand il n'y a plus du tout de corps, quand les cendres sont dispersées, ça peut être un petit peu violent. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant, si l'enfant le souhaite, d'amener l'enfant à la dispersion des cendres. Parce qu'il va être acteur plutôt que de s'imaginer ces choses. Voilà, donc toujours essayer de mettre l'enfant dans une forme d'action. Hein, que ce soit directement au moment de la mort ou après. Donc on peut expliquer des choses comme ça, mais ne pas donner trop de détails. Voilà, c'est ça qui est important. Parler du processus, mais pas des détails, et de parler de façon simple et directe. Hein. Parce qu'effectivement, c'est difficile de plus voir celui qui est mort, donc c'est important de garder des souvenirs, des photos, des vidéos, de pouvoir évoquer le disparu. On peut faire aussi un petit livre, hein, avec toutes les photos et son histoire de vie, et le partager en famille. Et puis, si l'enfant a besoin, bah, il peut en parler aussi à des professionnels, dans des groupes de deuil aussi, il y a des groupes de deuil pour enfants. Donc ça, c'est important que l'enfant puisse exprimer sa tristesse. Hein, il y a ce qu'on appelle aussi dans les groupes d'enfants en deuil, Monsieur Météo. Hein, et puis ils arrivent et puis on dit, alors aujourd'hui, tu te sens comment? Il est comment le temps? Ah ben aujourd'hui, il pleut. Ouais, d'accord. Bon, il y a de la tristesse. Ou aujourd'hui, il y a des nuages. Ou aujourd'hui, il fait plus soleil. Voilà, par exemple, hein, des choses comme ça. Ça leur parle bien. Voilà, ou des petites choses comme des dessins de chats, de chiens, hein, des petites. Et puis il y en a qui sourient, il y en a qui pleurent. Et ils vont choisir un peu du photolangage, ils vont choisir celui qui correspond. Enfin, il y a pas mal d'outils pour aider les enfants qui ont subi des deuils et qui auraient besoin d'être entendus, d'être un peu supportés.
Mais les smileys aussi.
Oui, des smileys. Thank you. Anne-Marie, comment répondre à cette question que les enfants posent souvent à leurs parents ? Dis maman, qu'est-ce qui se passe après la mort ?
Oui. Alors, comment est-ce que tu voudrais que cela se passe ? Laissez l'enfant répondre. Puis, on peut expliquer, si c'est notre croyance, que le corps est mis en terre et que l'âme, elle, continue son voyage. Que c'est l'âme qui garde les souvenirs et l'amour. Ou que quelque chose subsiste toujours dans notre cœur du disparu.
On pose aussi souvent cette question, est-ce que les morts continuent de nous aimer ?
Alors oui, on peut utiliser des objets qui représentent l'amour de l'enfant pour son grand-père et l'amour de papy pour sa petite-fille, par exemple. Avant que papy décède, tu avais l'amour. Tu avais de l'amour de lui et lui de l'amour pour toi. Et quand il est mort, il est parti avec l'amour qu'il avait pour toi. Et il continue d'avoir de l'amour, quoi qu'il se passe, même s'il est mort. On peut utiliser cet objet et le déplacer. Et cet objet représente papy et son cœur vers un autre endroit pour montrer que même si on est mort, il y a toujours de l'amour. Qu'aurais-tu envie de dire à papy ? Et que voudrais-tu que papy fasse pour toi ? Dire à l'enfant de fermer les yeux et imaginer que papy lui fait un gros câlin et qu'il pourra ouvrir les yeux quand ça sera OK pour lui. Demander à l'enfant, comment tu te sens maintenant ? Eh bien, c'est important car cet exercice, l'enfant pourra le refaire au moment où ce sera important pour lui, où il en aura besoin ou envie. Car rappelons-le, le cerveau ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et le réel. D'autre part, la personne a vraiment existé et nous avons ce souvenir en nous et il continue d'exister tant que nous y pensons. Alors Michel, dis maman, il est où papy maintenant ?
Alors, peut-être avant de répondre à ça, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit. Le cerveau ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et la réalité. Ça, c'est très important à retenir. Nous, dans notre conscience, bien sûr, on fait la différence. Mais les informations que l'on envoie, en fait, au niveau du cerveau, et c'est pour ça qu'on peut faire de la relaxation, de la sophrologie, etc., le cerveau le prend pour vrai. Et c'est pour ça que si on fait par exemple de la relaxation, qu'on imagine un endroit où on est très bien, alors ça peut être montagne, ça peut être la mer, etc., le cerveau va envoyer des endorphines et ça va être comme si on était en train de se baigner au bord de la mer. Voilà, tout ça pour expliquer en fait, ça pouvait paraître un petit peu bizarre de dire le cerveau ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et la réalité, mais voilà, quand on peut se faire du bien en imaginant des choses positives, ça donne des réactions positives dans le corps. Voilà, c'est ça que je voulais juste préciser. Et du coup, eh bien, on va éviter des expressions comme « papy est monté au ciel », où il s'est endormi pour longtemps, ou alors papy est parti faire un long voyage. Parce que ça peut semer la confusion, justement, dans l'esprit de l'enfant, surtout au moment du coucher. Je me souviens comme ça d'une petite fille qui était venue me voir au cabinet. Elle n'arrivait pas à s'endormir, elle avait peur de fermer les yeux, elle avait peur de s'endormir. Et en fait, elle avait peur parce qu'elle pensait que mourir et dormir, c'était la même chose. Donc on va éviter en fait ces mots et on va prendre plutôt des exemples adaptés, alors suivant l'âge, comme le cycle de vie d'une plante pour illustrer la mort, ou bien on peut parler du cycle de la terre avec printemps, été, automne et hiver, voilà, pour expliquer que les choses changent, les choses se transforment. Et là, ça va être aussi en fonction de nos croyances. Moi, j'aurais tendance à laisser l'enfant libre. C'est-à-dire lui partager ma croyance et lui dire c'est ma croyance. Voilà, maintenant, toi, tu peux peut-être aussi penser ou croire autre chose et l'enfant va adhérer ou pas. Voilà, c'est ce que je crois. Si nous sommes athées ou agnostiques, je recommanderais de ne pas asséner une vérité brutale qui peut l'effrayer, comme dire « bah après, il n'y a plus rien ». Voilà. Ah bon, d'accord, après, il n'y a plus rien. Bon, ça peut quand même terrifier l'enfant. Donc, éviter, même si on croit qu'il n'y a plus rien, À ce moment-là, on peut utiliser la poésie ou on peut lire un petit livre, utiliser un conte, laisser une porte ouverte. On peut aussi parler de la matière avec les électrons, que tout meurt, mais aussi tout se transforme et tout renaît quelque part, sous une forme ou sous une autre. Ça peut être très intéressant parce que, d'abord, c'est la réalité, et ensuite, ça laisse une porte ouverte à l'imaginaire de l'enfant. Alors, souvent aussi, quand ils ne peuvent pas voir leurs parents décédés, ils vont poser cette question. Pourquoi je n'ai pas le droit de voir mamie qui est décédée, par exemple ?
Oui. Mais papa et maman n'ont pas voulu que je voie mamie une dernière fois, car ils ont dit que j'étais trop petit. Dire au revoir à ceux que l'on aime est tellement important. Même si les parents pensent que c'est la meilleure solution pour l'enfant à ce moment-là, car on pense qu'on va leur éviter de la peine, bien, il est toujours important d'utiliser d'autres outils qui peuvent être par exemple des peluches pour que l'enfant exprime comment il aurait aimé que cela se passe. Donc ça peut être des peluches, ça peut être des poupées, ça peut être des Legos, enfin après à chacun hein, sa créativité. Et chaque personne est symbolisée et demander à l'enfant ce qu'il aimerait faire et dire. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est vraiment une ouverture pour l'enfant d'expression et qui va justement l'aider lui aussi à faire ce deuil. Et Michel, alors, j'ai peur de mourir.
Ben oui, je comprends que ça puisse te faire peur. Parce qu'effectivement, ces notions-là ne sont pas faciles à aborder. Et je crois que ben, chaque personne... Si elle y pense ou si elle est confrontée à ça, elle peut en avoir peur. Alors, on peut aussi amener l'enfant vers autre chose. Comme par exemple, ben moi j'aimerais bien mourir de rire. Car les gens diraient, tu sais quoi, elle est morte de rire. Et ça ferait rire beaucoup de personnes. Et toi, dis-moi, comment tu voudrais mourir? Quelle est la mort qui te serait la plus agréable? On peut jouer avec ça. Parce que l'enfant, il peut jouer avec tout finalement. En demandant à l'enfant d'imaginer une mort sympathique, la mort qu'il voudrait avoir, il va se focaliser sur ce qui est agréable et non sur l'événement qui lui fait peur. Et du coup, on va ramener autre chose en même temps que la peur.
Autre question. Et moi, je vais mourir?
Alors, je ferai un peu comme Françoise Dolto qui répondait à l'enfant. Sois tranquille, tu ne mourras que quand tu auras fini de vivre. Et comme tu vois, tu n'as pas fini de vivre, tu es bien vivant. Alors on a terminé cette émission pour aujourd'hui, et en complément de cette émission, vous pouvez regarder le film réalisé par la Fédération Jalmalve il y a déjà quelques années, qui s'appelle « Le soleil qui pleure ». Hein, il est très intéressant, il a été réalisé à partir de dessins et d'interviews d'une classe d'enfants.
Eh bien, écoute, nous allons terminer notre émission aujourd'hui et nous nous retrouverons tous les mois, le premier vendredi du mois. Donc, nouvel horaire, 11h. Et prochain rendez-vous, ça sera le 2 octobre, voilà, sur le thème « Devenir bénévole, ça se passe comment ?» Voilà. Pensez à envoyer vos questions en avance à Fréquence Mistral et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. digne@fréquencemistral.com. Nous vous remercions.
Au revoir.
À bientôt.